Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à tous, ici Armand Dubois, heureux de vous retrouver pour partager avec vous une heure de bonheur, cette fois avec un médecin né à Tracadie au Nouveau-Brunswick et très impliqué dans l'aide et le soutien apporté aux personnes atteintes du sida. En plus de la médecine, il a complété un certificat en philosophie à l'Université de Montréal et en collaboration avec trois autres médecins, il fonde en 1984 la clinique L'Annexe qui va devenir plus tard la clinique L'Actuelle. Ce centre a acquis une renommée internationale pour la détection des infections transmissibles sexuellement. En 1994, il tente, sans succès hélas, une incursion du côté politique comme candidat du Parti québécois dans le comté de Saint-Henri-Sainte-Anne et sera nommé, par la suite, après la défaite, conseiller spécial à l'Action humanitaire internationale du Québec, ce qui l'amènera peut-être, plus tard, à fonder Médecins du Monde Canada, organisme d'entraide humanitaire qu'il présidera jusqu'en 2007. Artisan de la prévention, de la recherche et de l'aide à la qualité de vie des malades, il est chevalier de l'Ordre national du Québec. Nous accueillons avec plaisir le docteur Régent Thomas. Bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que c'est effectivement votre défaite politique qui vous a amené à créer Médecins du Monde?
Bien, absolument. C'est un drôle de hasard. Quand j'ai perdu mes élections, M. Parizeau m'a appelé. Il était vraiment déçu, je pense que je peux le dire. Et il dit, attendez, avant de retourner à la clinique, je veux réfléchir à quelque chose. Puis après, il m'a offert le poste de conseiller à l'action humanitaire. Et c'est là où j'ai été invité à une conférence entre médecins israéliens et médecins palestiniens qui travaillaient ensemble, qui essayaient de travailler ensemble malgré le conflit, à une réflexion qui était organisée par Médecins du Monde France. Et c'est comme ça que j'ai connu Médecins du Monde. Et en revenant, pas longtemps après le départ de M. Parizeau, j'ai quitté mon poste. Et j'ai fondé Médecins du Monde Canada, ce qui deviendra Médecins du Monde Canada avec d'autres personnes. Et je suis revenu à l'actuel, à plein temps. Et
si on compare avec Médecins sans frontières, Médecins du Monde, qu'est-ce que c'est en termes de philosophie d'action?
C'est relativement semblable. En fait, Médecins sans frontières a été créé au début des années 70 par Bernard Kouchner, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères en France. Et à la fin des années 70, quand est arrivée l'histoire des Boat People, il y a eu une dissension au niveau de Médecins sans frontières et de Médecins du Monde sur la question du témoignage. Alors, Bernard Kouchner et quelques autres médecins ont quitté Médecins sans frontières et ont fondé Médecins du Monde. C'est des organismes qui font un travail quand même relativement semblable sur le terrain. Il y a peut-être des façons de gérer qui sont différentes. Médecins du Monde, par exemple, Canada, est autonome et est une organisation qui ne dépend pas d'une organisation supérieure. Contrairement à Médecins sans frontières, il y a une vision différente. Mais sur le terrain, je vous dirais qu'on fait des choses relativement semblables. Médecins du Monde, par contre, a dans son slogan « Aider, soigner, témoigner ». Tout l'aspect du témoignage deviendra important. Et va aussi travailler au niveau local. Donc oui, on fait de l'aide à l'étranger, mais on fait aussi de l'aide au niveau local. On dit que même dans nos propres pays qui ont des ressources financières, il y a des gens qui ne reçoivent pas de soins. Par exemple, à Montréal, les jeunes de la rue. Alors pourquoi des jeunes se ramassent dans la rue alors qu'on est dans un pays où on devrait avoir accès à un logement, à des soins de santé, etc.? Pourquoi ces jeunes-là ont plus de difficultés d'avoir des soins? En France, Médecins du Monde travaille beaucoup avec les sans-papiers qu'on appelle, donc les réfugiés, etc. Donc, on a un volet à l'étranger et un volet local aussi.
Est-ce que c'est difficile d'obtenir l'adhésion des médecins pour travailler auprès de ces démunis, de ces moins favorisés de la société?
Oui et non. Oui, parce que je voudrais, dans l'ensemble, notre façon de pratiquer... par exemple, l'humanitaire est quelque chose de très culturel en Europe. On parle beaucoup d'humanitaire dans les médias. Ici, on en parle quand même relativement peu. C'est assez récent. Et souvent, les médecins européens vont pouvoir faire des stages en Afrique, à l'étranger, être rémunérés par leur hôpital pour pouvoir s'intéresser à l'international. Alors qu'ici, on n'a pas beaucoup ça, cette culture-là.
Et pourquoi, essentiellement?
Je ne sais pas. Peut-être notre façon d'être payé, notre façon de voir. Bon, il faut dire qu'en Europe, ils sont plus proches de l'Afrique. Alors, c'est clair que l'Afrique, pour eux, est quelque chose de très, très important. Nous, on est plus proche des États-Unis. On a peut-être une façon de pratiquer qui est liée. Une clinique médicale, c'est une petite entreprise en soi. Si les médecins s'en vont à l'étranger pendant quelques mois, ils sont pris pour avoir des frais de bureau quand même. Ils sont pris pour être... Ils sont pas supportés par le système. C'était quelque chose que je voulais essayer de changer, moi, quand j'avais été conseiller à l'Action humanitaire. J'avais rencontré toutes les fédérations de médecins, d'infirmières. Si quelqu'un s'en va à l'étranger, on peut essayer de supporter le système puis essayer de créer ce que j'appelais un petit peu des soldats blancs, c'est-à-dire des gens qui vont faire de l'humanitaire au lieu d'aller faire la guerre.
Est-ce que c'est parce que les médecins, à cause de leur statut social, faut bien le dire, entrevoient l'exercice de la profession comme un aspect plus mercantile que professionnel?
Pas nécessairement. Il y a une réalité aussi. La réalité, c'est que si je travaille comme médecin dans un hôpital, médecin spécialiste, et il y a une pénurie de médecins. Si je quitte, ben il y a une relève, il y a une garde à avoir. Je transfère de mon travail à mes collègues qui vont souvent le faire pour des raisons humanitaires. Si je suis en pratique comme moi à la clinique, si je m'en vais ou des médecins s'en vont pendant 3 mois, 6 mois, ben il y a une réalité pratique que je dois payer le loyer, je dois continuer de payer ma secrétaire, etc. Alors, pas nécessairement l'aspect mercantile, je dirais plus l'aspect organisationnel, je pense.
Vous disiez que la France était plus près de l'Afrique. Vous revenez vous-même d'Afrique. Vous y avez passé quelques semaines l'été dernier. On va d'abord amorcer notre portion musicale avec une pièce qui est vraiment très africaine, qui a pour titre « Jammu Africa ». Elle est interprétée par Ismaël Lowe et on pourra parler de ce séjour en Afrique.
Parfait.
Africa! D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Konjamu Africa, mon laïnyan. Manejamu Africa, moi sunyu natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Konjamu Africa, mom lay ñaan. Mané jamu Africa, moy suñu natangé. Africa, Africa, Africa.
Avec nous aujourd'hui, le docteur Régent Thomas, vous avez été participant à un colloque important au cours de l'été dernier qui portait bien sûr sur le sida.
Oui. Il y a deux colloques extrêmement importants. Il y a le Congrès mondial sida qui était à Mexico l'an passé. Ça a lieu aux deux ans. Et il y a un congrès qui est plus médical. Le Congrès mondial, il y a un aspect social extrêmement important. Et le congrès plus médical, c'est le International AIDS Society qui a lieu aux deux ans. Cette année, il était à Cape Town, donc dans une ville merveilleuse en Afrique du Sud. On sait comment l'Afrique est touchée par le sida, par toutes les préoccupations. C'est donc intéressant d'avoir le congrès sur place parce que c'est une vraie réalité pour eux et ça permet de ramener le sida sur la place publique parce que le sida n'est plus tellement sur la place publique, de le ramener, de rappeler aux gens qu'il y a 8000 nouvelles infections par jour, qu'il y a 3000 décès par jour, alors que tout est orienté, je dirais, de ce temps ici vers la grippe. Alors, il y a des réalités comme ça qui sont difficiles à comprendre, comment toute la santé publique, tout d'un jour, toute cette espèce d'épidémie qui se retrouve aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rien faire.
Oui, parce que je sens dans votre façon de le dire une certaine frustration quant à l'équilibre du discours ou de la position médiatique de l'un et de l'autre.
Bien, je pense particulièrement aux pays pauvres. Je veux dire, la frustration, nous, on a la chance quand même d'avoir accès aux médicaments dans le sida, d'avoir accès à des soins de santé. Mais quand on imagine ces populations-là qui, eux, dans leur quotidien, tous les jours, leurs voisins meurent du sida, leurs amis meurent du sida, le professeur à l'école meurt du sida. C'est une réalité là, abominable en Afrique. Et que toutes les énergies de santé publique ou de santé sont orientées vers une pandémie qui peut-être a une certaine importance qu'il ne faut pas négliger, mais que je trouve qui est un peu déséquilibré.
Est-ce que l'habitude, parce qu'il y a une forme d'habitude à répéter toujours les mêmes choses, il fut un temps où, quand il était question de sida, toute l'attention des médias était captée.
Oui.
Avec le temps, on a comme banalisé cette maladie. Et pourtant, de maladie mortelle, elle est devenue maladie chronique.
Oui, mais dans les pays riches, évidemment. Alors, on a banalisé la maladie parce qu'elle est devenue une maladie chronique, parce qu'il y a des traitements qui sont accessibles, parce que les gens n'en mourront pas ou beaucoup plus rarement dans les pays riches, dans des pays comme le Canada et autres. Par contre, c'est pas vrai pour la majorité des pays. La majorité des gens vont continuer à mourir ailleurs.
Et particulièrement pour le continent africain.
Et particulièrement. Et il y a d'autres continents aussi en émergence, qu'on appelle les pays en émergence. Je suis allé en Russie à plusieurs reprises. Il y a une épidémie là qui est assez incroyable, qui a débuté beaucoup plus dans les années 90. Il y a des continents, il y a l'Inde, il y a la Chine, où il y a des épidémies qui sont extrêmement inquiétante si ça se multiplie sur le plan de toute la société. Et c'est pas évident que ces pays-là auront toutes les ressources non plus. Alors, c'est une épidémie qu'on a banaliser parce que les pays riches, ce n'est plus un problème pour nous. Puis on le sait, ben, avec notre petit nombril, quand c'est plus un problème pour nous, ça devient plus un problème de santé publique numéro un.
Et la réalité africaine, elle est terrible.
Ben, elle est terrible parce que c'est pas seulement l'accès à la trithérapie. Hein. Souvent, les gens ont l'impression que c'est l'accès aux trithérapies et les méchantes compagnies pharmaceutiques. C'est très gros, ça, comme un petit peu portrait. La réalité, c'est l'accès à des structures et des soins de santé. C'est peut-être là où on pourrait faire le biais avec, ou le lien avec la grippe, par exemple. H1N1, on préfère le lien. C'est-à-dire que si cette grippe-là se ramasse en Afrique, dans des pays pauvres, on n'est même pas capable de la diagnostiquer, encore moins de la soigner, c'est que ces pays-là n'ont pas les infrastructures de santé. Alors, si on investit dans des infrastructures de santé, dans des façons qui sont beaucoup plus mondiales, globales, que de dire, oui, oh, trouvons un vaccin pour... on est tout de suite à la recherche d'un vaccin pour la grippe. Tant mieux si on en a un, mais on cherche un vaccin pour le sida depuis 25 ans, on n'a toujours pas. C'est différent, soit dit en passant. Mais si on investissait dans des infrastructures, des services de santé, en Afrique, la réalité, c'est que les gens n'ont même pas accès à l'éducation pour se protéger, pour connaître que le sida, c'est un virus. 50 à 60 % des gens ne savent pas comment se transmet cette maladie-là, encore en 2009. Après ça, on n'a pas accès à des tests de dépistage. On a encore moins accès à des traitements. Il y a plein de choses là, que juste l'accès à la réelle trithérapie, qu'à la trithérapie seulement.
Alors, restons sur le territoire africain avec la regrettée Myriam Makeba qui nous interprète Apo Zamani et nous poursuivrons sur cette terrible maladie qu'est le sida. Avec nous, le docteur Régent Thomas. Sida égale Afrique, mais sida égale maintenant des pays auxquels on n'avait même pas imaginé la présence d'une telle maladie. On pense par exemple à la Chine. La Chine qui commence à être maintenant aux prises avec les conséquences du sida.
Bien, oui, des épidémies qui sont arrivées un peu plus tard, qu'on peut relier à la mondialisation, si on veut. La Russie, on y pense, par exemple, il y avait une certaine protection par les barrières, tout simplement, que les gens voyageaient moins. Et quand ces barrières-là éclatent, ben, arrive avec ça aussi un petit peu, ben, parfois la pauvreté, parfois la prostitution, parfois les drogues. C'est toujours les mêmes facteurs un peu associés à des clientèles vulnérables, plus touchées, plus fragiles, qui sont les premiers à être affectés ou infectés. Et après ça, va dans la population générale. Alors, par exemple, la Russie, je suis allé à quelques reprises. C'est un problème qui touche actuellement. Il y a un problème extrêmement grave de toxicomanie en Russie. Il y a une grande, grande pauvreté dans certaines régions. Autant il y a une grande richesse d'un côté qui se développe, autant il y a une autre grande pauvreté qui se développe. Et ils n'ont pas cette vision non plus. Nous, on a quand même transformé la vision qu'un toxicomane, c'est un malade, alors que c'est beaucoup associé à la criminalité. C'est vrai que c'est associé à la criminalité, mais ils ont une vision vraiment de toxicomanie égale prison, si on veut. Nous, on a une vision, bon, on peut peut-être donner des soins, des services, etc. Donc, c'est toutes ces mentalités-là qu'il faut changer quand on va faire de la formation sur le VIH en Russie, par exemple. C'est pas juste de dire égal virus, égal traitement, bing-bang, les gens vont prendre leur pilule, puis c'est fini.
Avez-vous l'impression qu'ici, particulièrement au Québec, on a fait des grands pas au niveau de la perception? Vous parliez des toxicomanes, par exemple aussi à l'égard de tout le phénomène de l'homosexualité. Est-ce que, si on compare à il y a 10 ou 15 ans, il y a probablement encore des pas à franchir, mais est-ce qu'on a fait quand même de grands pas?
On a fait des grands pas au niveau scientifique. On a vraiment incroyable, je veux dire, la pratique quotidienne de la médecine avec les malades du sida n'est plus le même que dans les années 90. Mm-hmm. Et ça, c'est une grande avancée. On a fait des grands pas, je pense, au niveau de l'homosexualité. C'est clair que ça n'a plus rien à voir comme c'était il y a 15 ou 20 ou 25 ans. Mais un jeune homosexuel de 18, 19 ans, c'est encore difficile, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de jeunes, d'accepter l'orientation sexuelle.
Les préjugés sont encore présents.
Et veut pas, parfois c'est dans la famille proche, parfois c'est... On est ouvert à l'homosexualité quand il n'y en a pas dans notre famille, quand c'est notre fils, quand c'est notre fille, quand c'est... On veut pas que cette personne-là souffre aussi, c'est pas juste une question de préjugés. Donc, il y a une difficulté réelle pour certains jeunes, mais ça n'a rien à voir avec 15 ou...
Mais dans votre pratique...
Les préjugés auprès des malades atteints du sida, moi je trouve que c'est là où on a fait moins de changements, où on a moins avancé, et au contraire, j'ai l'impression qu'on recule un peu.
En quel sens?
Dans le sens que dans les années 80, comme le sida, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas, qu'elle était mortelle, il y avait une espèce de présomption d'innocence d'avoir cette maladie-là. C'était pas de sa faute. Quelqu'un qui, dans les années 2000, contracte le VIH, se fait dire « t'aurais dû le savoir ». On ne comprend pas les facteurs de vulnérabilité qui fait que des gens peuvent contracter le VIH encore en 2000. On a de la difficulté à comprendre que la connaissance, que c'est pas suffisant pour des jeunes de se protéger.
Et pourtant, les campagnes de sensibilisation sont omniprésentes.
Je trouve pas.
Non?
Je suis pas d'accord.
Vous êtes pas d'accord. Il faudrait en faire plus.
Bon, tout le temps. Il y a 3 à 4 infections VIH par jour au Québec. Il y en a 11 par jour au Canada. C'est un problème de longue haleine. On investit à peu près en santé publique pour les MTS, le VIH au Québec, 3 millions de dollars par an. Peut-être 1 million en prévention. Pendant ce temps-là, on paye pour 100 millions en trithérapie par an aujourd'hui en 2009. Donc, on paye 100 fois plus que ce qu'on investit en prévention. Alors, il faut renverser cette vapeur-là et penser que la prévention, ben, les jeunes d'aujourd'hui qui ont 18-20 ans, avaient 8 ans quand la trithérapie est arrivée. Et on a sorti l'éducation sexuelle des écoles, les cours de formation personnelle et sociale ont disparu, au même temps où on avait un défi énorme de dire, hey, écoutez, là, on a un traitement maintenant. Ça va être beaucoup plus difficile de faire de la prévention.
On n'a donc pas fait le travail correctement.
Non, on a baissé les bras, puis on s'est dit, et on a laissé les choses aller, puis on va payer économiquement et socialement.
Complétons cette première demi-heure par une chanson de Francis Cabrel, African Tour, et nous vous revenons tout de suite après la pause.
Déjà nos villages s'éloignent. Quelques fantômes m'accompagnent. Il y aura des déserts, des montagnes à traverser jusqu'à l'Espagne. Et après, Inch'Allah. «
on a de mauvaises chaussures. L'argent cousu dans nos doublures. Des passeurs doivent nous attendre, le peu qu'on a, ils vont le prendre. Et après, est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers sont armés? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien, sauf que chez moi, sauf que chez moi y a rien. Pas de salon, pas de cuisine. Les enfants mâchent des racines. Tout juste un carré de poussière, un matelas jeté par terre. Au-dessus, Inch'Allah. Vous vous imaginez peut-être que j'ai fait tous ces kilomètres, tout cet espoir, tout ce courage pour m'arrêter contre un grillage. Est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers vont tirer? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien, sauf que chez moi, sauf que chez moi y a rien. Je n'en sais rien. On verra bien. Moi je veux bien, sauf que chez moi. La moitié d'un échafaudage. J'en demande pas davantage. Un rien, une parole, un geste. Donnez-moi tout ce qu'il vous reste. Et après, je n'en sais rien. On verra bien. Moi je veux bien, sauf que chez moi. Déjà nos villages s'éloignent.